France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Chiche, qu'on fait avec la malbouffe, ce qu'on fait avec la cigarette. Un type de loi Évin pour interdire la publicité. On augmente le prix de tout ce qui est mal noté. Et si on pousse même la logique jusqu'au bout, on pourrait mettre des photos qui font réfléchir comme sur les paquets de cigarettes. Vous me direz, il ne faudrait pas pousser non plus. D'ailleurs, je vous rassure, je viens de pousser le bouchon puisque c'est pas ce que proposent nos invités. Mais enfin, quand même, les lobbyistes de la nourriture industrielle et transformée sont très forts dans leur genre. Et la malbouffe, c'est l'obésité qui gagne du terrain partout, ce sont des diabètes de type 2, des maladies chroniques, certains cancers de la quarantaine, et tout ça, ce n'est pas une découverte. Les trois chercheurs que nous avons avec nous veulent crier plus fort qu'ils l'ont déjà fait. Ils ont signé une tribune sur le site du Monde hier, car envers et contre tout, nous mangeons toujours trop sucré, trop salé, trop gras. Ils en savent quelque chose, certains autour de cette table ont inventé le Nutri-Score que vous regardez ou peut-être que vous ignorez, vous avez le droit de nous le dire aussi, parce que évidemment qu'on va parler de plaisir, y compris de plaisir gras ou de plaisir sucré, la question c'est pas de nous interdire de mettre du sucre et du chocolat dans un gâteau ou du gruyère sur les pâtes, enfin j'espère, c'est l'accès à une nourriture saine ou pas qui nous intéresse, c'est frapper plus fort sur ce qui est réellement mauvais et surtout transformé. Ils proposent donc, et nous en discuterons, de taxer la malbouffe, d'en réglementer la publicité, d'en limiter le placement dans les espaces de vente, de généraliser le Nutri-Score dans tous les aliments, y compris le vrac, y compris la restauration collective. Et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et si vous êtes plein de bonne volonté, mais largué quand vous poussez votre caddie dans un supermarché, vous êtes aussi à la bonne adresse, c'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Sarah, bonsoir. Vous êtes la première et vous êtes la bienvenue.
Bonsoir, merci France Inter de prendre mon appel. Voilà, je voulais intervenir parce que moi, je vis en France depuis plusieurs années, vraiment plusieurs années, plus de 30 ans. Et mon mari est français. Lorsque je l'ai rencontré, j'étais en surpoids. Il m'avait dit à l'époque, si tu veux mincir, je te ferai mincir en mangeant beaucoup. Et je ne le croyais pas. Et en fait, il a réussi à me faire mincir. En m'apprenant tout simplement comment faire une cuisine simple. Moi, je cuisine simplement. Et en fait, pour aller vite, j'ai eu une rupture avec ma famille en Angleterre pendant 20 ans. Et quand j'y suis retournée, j'étais abasourdie, 20 ans plus tard, de voir comment le pays s'est transformé, comment ce qui était auparavant, certes, peut-être pas le pays où dans chaque petite maison, on mangeait une cuisine élaborée, aussi élaborée qu'en France, mais en tout cas, on mangeait sainement. Finalement, là, j'ai un paquet sous les yeux parce que je rentre d'Angleterre avec les fameux hot cross buns que l'on mange pour Pâques. Avant, ma grand-mère les préparait avec 6 ingrédients principaux. Sur le paquet qui vient d'une grande surface de luxe, je n'ai pas de Nutri-Score, alors qu'il semblerait qu'il y en a un là-bas. Et là, j'ai compté, il y a plus de 25 ingrédients avec plusieurs E, etc. Donc, tout ce que je voulais dire ce soir, c'est que, en fait, moi, je crois qu'il est possible de manger sain, mais il faut que l'on nous permette d'avoir le temps et pas forcément un budget énorme, parce que je trouve que même en achetant bio, si on peut se le permettre, que l'on prépare nous-mêmes avec de bons ingrédients, les légumes, etc., durent plus longtemps et finalement tout le monde est gagnant.
Merci.
Parce que là-bas, il y a plus de 64%, je pense, de la population en surpoids et une personne sur cinq qui est obèse.
Merci Sarah, pardon Sarah de vous interrompre, mais il faut laisser aussi de la place pour les autres. Et puis il faudrait que je vous présente aussi les invités qui sont autour de la table. Mais on a retenu ce que vous nous dites, j'ai entendu nous permettre d'avoir du temps, nous permettre d'avoir aussi des produits. Là aussi, c'est parfois compliqué, mais on y viendra autour de la table, il y a Jean-David Zetoun. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes hépato-gastro-entérologue et docteur en épidémiologie clinique. Vous avez écrit Le suicide de l'espèce, c'était chez De Noël en 2023. Il y a Serge Herberg. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur émérite de nutrition. Vous êtes aussi le père du Nutri-Score et aussi d'ailleurs des 5 fruits et 5 légumes par jour, si je ne m'abuse. Bonsoir. Mathilde Touvier.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche à l'INSERM et vous aussi, vous avez travaillé sur le Nutri-Score. C'est même à vous que le flambeau a été transmis, donc vous connaissez ça vraiment par cœur. Commençons avec vous, Serge Herberg. D'abord, il a été exporté, votre Nutri-Score, pas jusqu'au Royaume-Uni ou pas?
Alors, non, au Royaume-Uni, ils ont une forme de logo qui a servi d'ailleurs de modèle au Nutri-Score depuis assez longtemps, mais c'est un système un peu plus compliqué, certes utile, mais qui a servi de modèle au Nutri-Score qui, lui, s'est exporté, en effet, à d'autres d'autres pays européens, puisqu'il y a maintenant 7 pays qui l'ont adopté en Europe.
Plus compliqué, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce qu'il y a des fois effectivement des gens, même maintenant on va en parler d'ailleurs qu'il a été bougé, le Nutri-Score, parfois c'est difficile de savoir ce que ça veut dire en fait, le A, le B, le A, le C, le D, le E.
Alors, c'est assez difficile, c'est beaucoup plus facile en France avec le Nutri-Score, ouais. Parce que ce sont des couleurs qui sont simples à comprendre, du vert au rouge, de A à E. On comprend qu'il y a un produit A plutôt vert et de bonne qualité nutritionnelle, qu'il y a un produit D ou E rouge et de moins bonne qualité nutritionnelle. Et il a l'avantage d'être très synthétique. Mm-hmm. C'est une chose qui est graduelle, c'est une information donc qui est simple, intuitive et tout de même assez compréhensible par tous, et notamment par les populations les plus défavorisées. Beaucoup de travaux l'ont démontré. Alors, il est plus simple notamment que le modèle qui existe au Royaume-Uni, qui est par nutriments, donc avec certes des couleurs, mais qui a ceci, des chiffres, des portions, etc., qui est beaucoup plus complexe à comprendre.
Il y a dans la remarque de notre auditrice, Jean-David Zetoun, il y a deux choses. Il y a nous permettre d'avoir le temps. C'est compliqué de permettre aux gens d'avoir le temps. Chacun travaille, il y en a qui font des distances importantes pour rentrer chez eux, etc. Donc c'est un facteur. Et il y a aussi nous permettre d'acheter des produits qui sont plus sains. Elle est là la clé en fait. Nous permettre d'acheter des produits qui sont plus sains, ça veut dire mieux les flécher ou ça veut dire planquer les autres? Ça veut dire quoi en fait? Ou les deux, mon capitaine?
Non, juste pour l'histoire du temps, c'est une remarque anecdotique qui est que les industriels, initialement, ont fait des plats parce que les femmes commençaient à travailler dans les années 70 et qu'elles avaient moins de temps pour cuisiner. Donc l'intention de faire des plats industriels n'était pas quelque chose de mauvais. Ça répondait à une demande de la société. Ensuite, une clé importante, c'est ce qu'on a proposé dans le papier qui est paru dans Le Monde hier que vous avez cité, c'est que le Nutri-Score soit général, ce qui, au passage, rendrait la compétition équitable entre industriels et éviterait qu'il y ait des industriels qui fassent cavalier seul en ne scorant pas leurs produits, en ne disant pas si c'est bon ou si c'est mauvais. Et ça éclairerait mieux les gens qui font leurs courses, puisque bien sûr que les gens, premièrement, regardent le Nutri-Score, deuxièmement, le comprennent, et troisièmement, le suivent en moyenne. Ça ne veut pas dire qu'ils achètent que du bien scoré, mais ça veut dire qu'ils achètent moins de mal scoré quand ils regardent par rapport à s'y regarder.
Est-ce que ça veut dire, Mathilde Touvier, parce que effectivement, les gens, évidemment, désormais savent ce que c'est que le Nutri-Score, évidemment que tout le monde sait le lire désormais, mais je me demandais jusqu'à quel point on savait aujourd'hui et que c'était un facteur, ou si même quand on achète, et ça c'est vraiment une question de culture et c'est compliqué, même quand on achète de la nourriture transformée, dont on sait qu'elle n'est pas forcément bonne, on sait aussi ce qu'on achète et on sait pourquoi on l'achète au final.
Oui, alors moi ce que j'ai trouvé formidable dans la remarque de notre auditrice ici, c'est qu'elle reprend finalement toutes les recommandations du Programme National Nutrition Santé et toutes les dimensions. Lorsqu'on s'intéresse aujourd'hui à l'impact sur la santé des aliments, on a la dimension nutritionnelle avec effectivement pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, assez de fibres. Et donc ça, c'est vraiment ce sur quoi nous renseigne le Nutri-Score avec études à l'appui. Quand on va manger des aliments mieux scorés au Nutri-Score, on a montré qu'il y aurait moins de risques de cancer, de maladies cardiovasculaires, d'obésité, etc. Donc c'était une des dimensions. Elle a évoqué aussi la liste d'ingrédients très compliqués dans les aliments industriels qu'elle achète. Donc on est plus là sur le côté additif alimentaire, ultra-transformation. Donc c'est aussi une dimension pour laquelle on sait qu'il y a des impacts là sur la santé maintenant. Elle a évoqué aussi le bio, essayer d'aller vers les aliments bio. Donc, et puis tout ça en gardant le plaisir de manger. Donc je pense qu'elle a balayé plein d'éléments en rappelant que ces dimensions-là effectivement sont importantes pour la santé et que ces politiques, ces recommandations, ces outils là, comme le Nutri-Score, ne sont pas là pour empêcher d'avoir plaisir à manger, d'avoir une alimentation conviviale et qui nous fasse plaisir et qu'on prenne plaisir à préparer, mais qui sont là pour essayer de rééquilibrer ces aspects-là tout en maximisant les bénéfices pour la santé. Donc je trouvais l'intervention assez complète par rapport à tout ça.
Mais parce qu'on est d'accord, on va retourner au standard dans un petit instant, Jean-David Zetoun, mais on a le droit évidemment d'aller vers un Nutri-Score qui n'est pas un Nutri-Score A ou un Nutri-Score B. Et l'idée, c'est pas de se dire ces aliments-là sont interdits. L'idée, c'est juste de comprendre que ce qu'il faut privilégier, ce qu'on peut s'autoriser de temps en temps et comment il faut le regarder. C'est juste
exactement, ça oriente le Nutri-Score. Ça oriente une moyenne de consommation.
Pardon, et par ailleurs, E ne veut pas dire que c'est pas bon. Ça dit que c'est trop sucré, ça dit que c'est trop gras, ça dit etc.
Oui, c'est une simple information, c'est une transparence qui permet désormais un choix éclairé du consommateur qui peut intégrer, s'il le souhaite ou non, cette dimension. Et un produit DOE, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon pour la santé, ça veut dire qu'il doit être consommé en quantité raisonnable, pas trop fréquemment, pas trop grande quantité.
Et on verra jusqu'à quel point vous voulez-vous aller plus loin que ce que nous savons déjà, parce que vraisemblablement, effectivement, il y a encore des trous dans la raquette, comme on dit. Je voudrais qu'on commence avec Annick et l'idée d'Annick, peut-être, qui est à Perpignan. Bonsoir, Annick.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Merci de me prendre mon appel. Oui, en fait, on entend parler depuis quelque temps de sécurité sociale alimentaire. C'est-à-dire, fournir à des personnes qui n'ont peut-être pas trop les moyens une carte, comme on a une carte de sécurité sociale, qui permettrait donc de rembourser ou d'acheter surtout des produits frais, non transformés, des produits locaux, qui permettrait aussi de soutenir pas mal de producteurs locaux. Et au lieu de, parce qu'on soutient l'industrie pharmaceutique en remboursant des médicaments pour le cholestérol, le diabète, et si on aidait les gens à mieux manger, peut-être que ça pourrait aussi essayer de prendre moins de médicaments. Et voilà, donc il y a des initiatives, mais on n'a pas l'impression que ça fasse son chemin pour l'instant.
Merci beaucoup Annick pour cette remarque. Mathilde Touvier, moi j'ai envie de vous poser la question comme ça, faut-il aider les gens à mieux manger? Je ne voudrais pas qu'on devienne paternaliste en fait dans notre manière d'aborder les choses. Comment on fait pour aider les gens à mieux manger?
Oui, alors...
je veux dire, quand ils mangent des pâtes remplies de beurre et qu'ils en mangent 4 fois par semaine, ils savent aussi ce qu'ils sont en train de faire, vous voyez ce que je veux dire? Donc comment on fait pour aider les gens à mieux manger sans que ça devienne une espèce de forme d'injonction, en fait, qui est pas le but de ce que j'ai compris?
Oui, complètement. Alors, l'idée, hein, c'est donc derrière l'intervention qu'il y avait là, il y a la question notamment d'aider des populations plus défavorisées. On sait que l'alimentation, la nutrition, c'est vraiment un des marqueurs clés des inégalités sociales de santé. Si on prend les chiffres d'obésité, par exemple, on a 16% des enfants d'ouvriers qui sont en surpoids. C'est seulement, entre guillemets, 7% chez les cadres, les enfants de cadres. Mmh. Pour l'obésité, 6% des enfants d'ouvriers, 1% pour les enfants de cadres. Donc, on aurait des milliers d'exemples comme ça. Donc, c'est absolument important d'agir à ce niveau-là. Si on veut aider efficacement, il faut agir à plusieurs niveaux. Il y a tout ce qui va être au niveau des individus, donc en apprenant dès le plus jeune âge, en renforçant la formation des enseignants, par exemple, à la nutrition, en développant la littératie en santé, les informations du consommateur, comme celles qu'on peut avoir sur le tictage avec le Nutri-Score. Donc tout ça, ce sont des actions au niveau des consommateurs qui sont très très importantes au niveau individuel. Mais si on en reste là, on va perpétrer les inégalités de santé, on ne résoudra pas l'ensemble du problème. C'est pour ça qu'il faut aussi agir avec des mesures plus collectives et obligatoires et politiques de régulation des prix. Il faut que ces aliments favorables à la santé, nutritionnellement favorables, moins transformés, soient par défaut les aliments les moins chers, les plus accessibles. Et il faut pour ça jouer sur les prix, le marketing. Il y a plusieurs propositions là qu'on peut faire et discuter. Et il faut vraiment agir à ces différents niveaux si on veut que les choses avancent.
Ce que vous dites même dans cette tribune, Serge Herberg, c'est qu'il faudrait presque, c'est pas les cacher, mais en tout cas, ne pas mettre en avant dans les supermarchés les produits qui sont les plus transformés et donc qui sont les plus mauvais pour la santé. Vous dites même qu'il faudrait supprimer ou réglementer en tout cas la publicité pour ces produits-là.
Oui, d'un côté, en termes d'accessibilité, il suffit de se promener dans les rayons d'un supermarché pour voir que les produits qui sont mis en tête de gondole ou à hauteur des yeux ne sont pas obligatoirement...
Ou à hauteur d'enfant, d'ailleurs.
Ou à hauteur d'enfant dans les sorties de caisse. C'est pas les fruits du hasard. Donc, ce que l'on propose, ce que l'on demande, c'est qu'il y ait une régulation qui permette de mettre à disposition des aliments de meilleure qualité nutritionnelle dans les points les plus stratégiques. D'un autre côté, il y a à la fois l'accessibilité donc physique et puis l'exposition qui pose problème. Et quand on regarde sur les publicités télévisuelles ou radio, d'une façon générale, le marketing, il incite plus à la consommation d'aliments dont on ne veut pas une interdiction, mais dont on ne veut pas qu'il fasse l'objet d'une promotion pour une consommation excessive. Donc, sans les cacher, ils devraient être moins présents, moins visibles, et surtout, la publicité ne devrait être autorisée que pour des produits dont la qualité nutritionnelle justifie qu'ils fassent l'objet de promotion.
Mais quand vous dites ça, quand vous avancez avec ces idées, Jean-David Zetoun, comment on vous regarde et qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai fait sciemment la comparaison avec la cigarette en introduisant cette émission. Est-ce qu'on est dans le même rapport de force aujourd'hui avec les industriels de la nourriture transformée qu'on l'était avec les industriels du tabac? tabac il y a quelques années.
Oui, je pense que c'est pire même, parce qu'on n'est pas obligé de fumer pour vivre, mais on est obligé de manger pour vivre. Et donc ça, c'est un très bon argument pour les industriels. Mais c'est un argument qui est fallacieux, parce que ça se base sur la confusion entre les bons et les mauvais aliments. On n'est pas obligé de manger des mauvais aliments pour vivre. Mmh. Même quand vous parliez du rapport au plaisir tout à l'heure, moi je voudrais bien voir une étude qui prouve que seulement avec les aliments, eux, on peut prendre du plaisir. J'en ai jamais vu des études comme ça, et à mon avis, il n'y en a pas. Et je pense qu'il n'y en a pas parce que ça n'est pas le cas. Donc oui, le lobby, ou certains lobbies, ou certains industriels, aujourd'hui, luttent contre ça pour pouvoir continuer le business comme d'habitude. C'est pas qu'ils veulent sciemment empoisonner qui que ce soit, mais c'est que c'est compliqué de changer. Ils ont peur que ce soit moins intéressant économiquement, ce qui là encore n'est pas prouvé. Et donc, du coup, ils essayent de limiter au maximum un effort minimal de transparence. Le Nutri-Score, c'est pas un truc liberticide. Hein. C'est juste, on vous dit... Ce que vous avez le droit de savoir, c'est est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon.
On a Lucille sur WhatsApp qui dit ceci, le message pour tout le monde devrait être simple, plus c'est emballé, moins ça ressemble à quelque chose qui pousse ou qui marche dans la nature. Pire est l'aliment, le Nutri-Score c'est très bien, c'est simple et c'est intuitif, mais si je puis me permettre, c'est la nutrition pour les nuls, elle a raison, c'est un peu la nutrition punie. Elle dit ceci, il faut arrêter de mentir quand même parce que manger mieux c'est plus compliqué et ça coûte plus cher, Mathilde Touvier. Et elle a raison,
c'est exactement, Lucille. C'est exactement ce qu'on veut changer. C'est-à-dire que on devrait avoir, au contraire, manger mieux, ça coûte moins cher. Et donc, si les produits qui étaient les plus favorables, donc avec un meilleur Nutri-Score, étaient plus accessibles, c'était ceux-là qu'on voyait dans la publicité, auxquels nos enfants étaient les plus exposés, qui par ailleurs, c'était des aliments moins transformés, bio de manière généralisée, pour limiter les résidus de pesticides, eh bien, ce serait la norme. Et en fait, on aurait accès à ces produits-là par défaut. Ça me fait penser aussi à une étude récente de Foodwatch, par exemple, qui s'était amusée à regarder la quantité de sucre dans les aliments du commerce et qui a montré que les marques les moins chères étaient les produits les plus sucrés, y compris dans des conserves de légumes dans lesquels on n'a pas besoin de mettre du sucre en réalité. Donc on est vraiment, on marche à l'envers, on marche sur la tête, et donc on voudrait remettre tout ça d'aplomb avec ces propositions.
Voici Virginie qui nous appelle de Perpignan. Bonsoir Virginie.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, merci. Je m'interroge sur le Nutri-Score, comme par exemple pour les galettes de riz soufflé, qui sont très pauvres en sucre, très pauvres en graisse et en score A, alors qu'il y a un indice glycémique qui est très élevé, parce que dès lors qu'il y a du riz ou des flocons soufflés, écrasés, on monte en glycémie, du moins le pic est élevé. Si on prend une glycémie au doigt, par exemple, donc on monte en glycémie et le pancréas doit décharger l'insuline. Donc après, on a une hypoglycémie et on a l'impression que ce sont des aliments, quand on fait un régime, qui sont pauvres en sucre, pauvres en graisse, pauvres en tout. Et au final, on yoyote au niveau des pics glycémiques, quoi. Et c'est un peu le paradoxe, des fois, je trouve, de ce genre de... d'informations qui, pour moi, erronée, quoi. Dès lors que l'aliment est soufflé ou écrasé, tout ça, on est...
C'est ce qui est très compliqué, Serge Herberg, surtout, compliqué à comprendre, en fait. Attends, comment ça? Alors, vous me mettez que c'est A, puis finalement, on me dit que c'est pas si bon que ça. On a une question qui demande, il faudrait que je la retrouve, mais qui fait le rapport entre le Nutella et le Roquefort, qui, à la fin, se retrouve au même endroit, sont notés pareil, et on comprend bien que c'est pas le même produit, mais enfin, est-ce que vraiment ça devrait être noté de la même manière? Est-ce que ça dit la même chose, en fait?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Nutri-Score...
Et surtout dans notre alimentation.
Oui, oui, bien sûr. Nutri-Score ne fait que traduire ce qui est sur l'étiquette nutritionnelle. Ça ne renseigne que sur la dimension nutrition de l'aliment. Et donc, c'est son impact sur la santé. Donc, ce qu'il y a du gras, du sucre, du sel, des calories, des fibres, des fruits, légumes, etc. Ça ne renseigne pas sur d'autres dimensions. Il ne faut pas demander plus au Nutri-Score qu'il ne peut donner.
Vous voulez dire, c'est que ça ne renseigne pas sur l'huile de palme du Nutella, mais sur le gras du Roquefort. En fait, c'est ça que vous êtes en train de dire.
Ça renseigne, d'une façon générale, sur le gras tel qu'il apparaît sur le produit. Mais c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire, il y a de nombreuses études qui ont en effet montré, sur des très larges populations suivies de très nombreuses années, dans différents pays, que le fait de manger des aliments bien classés sur l'échelle du Nutri-Score diminue le risque de maladies aussi importantes que celles que Mathilde Touvier citait tout à l'heure, obésité, cancer, maladie cardiovasculaire. Donc, bien évidemment, ça ne renseigne pas sur toute la dimension santé des aliments, ça ne prend pas en considération les additifs, l'ultra-transformation, les résidus de pesticides, mais il faut accepter ces limites qui sont inhérentes à tout système d'information nutritionnelle, et c'est déjà suffisamment efficace. Bien sûr, il faut d'autres éléments d'information complémentaires sur l'ultra-transformation, sur est-ce que le produit est bio ou non, mais on ne peut pas demander un logo nutritionnel plus qu'il ne peut donner. Mais rappelons-nous que vraiment, on a beaucoup d'éléments scientifiques qui justifient de tendre vers des aliments mieux classé sur l'échelle du Nutri-Score, et si on prend en effet un aliment mal classé, eh bien de le consommer relativement de façon raisonnable, en quantité pas trop importante et pas trop fréquemment.
Écoutez ce que nous dit Marion sur WhatsApp, Jean-David Zetoun, elle dit ceci: j'ai été bénévole au Resto du Cœur. Les personnes préféraient prendre de la soupe en brique ou des lasagnes plutôt que de prendre des légumes à cuisiner. J'avais proposé des cours de cuisine, mais personne ne venait. Et moi je crois qu'on ne peut pas blâmer les gens qui pensent qu'ils n'ont pas le temps, que c'est trop compliqué, il y a 4 enfants dans la maison, etc. Est-ce que la clé, c'est pas aussi... En fait, c'est pas le produit transformé contre les fruits et légumes. C'est trouver le produit tout fait, mais qui serait de meilleure qualité que celui qui déboule de je ne sais où, pour que l'aide aux gens qui n'ont pas envie de cuisiner ou qui ne savent pas ou qui n'ont pas le temps, etc., soit la même, et que du coup, leur réflexe, ce soit aussi de prendre quelque chose qui est déjà tout fait, mais qui a un meilleur Nutri-Score.
Non, mais d'abord,
plutôt que d'amener les gens vers « cuisine ta soupe ».
Non, non, mais il y a 2 choses. D'abord, nous, on est médecins, bon, épidémieux, santé publique, etc. Donc, on n'est pas des industriels, on n'est pas...
On est d'accord.
Vous voyez, donc, bon, on ne peut pas répondre à toutes les questions.
Non.
Ensuite, pour cette question précisément, y a une réponse. Y a des produits industriels qui sont Nutri-Score vert. Donc, c'est possible. Ça existe. Si vous regardez, je l'ai fait récemment, de façon anecdotique, mais les chips, on a tout le spectre.
Ah ouais, c'est marrant, on a une question là-dessus. Comment est-ce qu'une chips peut être
Ils ont réussi, donc c'est possible.
Ah ouais.
Et donc, du coup, je trouve qu'au contraire, c'est une bonne démonstration qu'il y a un chemin qui est possible pour les industriels, et tant mieux pour ceux qui y arrivent, et j'espère que ça se vend mieux.
Comment expliquer que des stars comme Connie Parker ou comme Thierry Henry fassent de la pub pour des produits ultra transformés, nous demande Jackie Mathilde Touvier. Alors vous n'avez pas jugé de Tony Parker ou de Thierry Henry, je ne vais pas vous demander ça, mais il y a quand même quelque chose autour de la bouffe, on va le dire comme ça, qui reste culturellement compliqué pour qu'effectivement on aille chercher ce genre de personnes-là pour faire de la publicité pour des produits dont on sait très bien qu'ils ne sont pas forcément les meilleurs.
Oui, c'est un vrai problème aussi auquel on a été confronté, par exemple, pendant les Jeux Olympiques, hein, où il y avait des sponsorings de la part d'industriels de soda qu'on ne nommera pas, hein, mais qui, par exemple, voilà, sponsorisent pour donner une image santé en passant par la porte activité physique et les bénéfices de l'activité physique sur la santé, et donner une image comme ça santé aux consommateurs. Donc, c'est un vrai problème parce que, évidemment, ces stratégies-là, marketing, sont très efficaces chez les jeunes. Quand on pense à réguler les messages publicitaires qu'ils reçoivent, c'est pas seulement, bien sûr qu'il faut commencer par ça, réguler la publicité, mais c'est aussi de manière insidieuse tout ce marketing qui va passer par les réseaux sociaux, par des stars, idoles des jeunes ou moins jeunes qui vont prêter leur image. Et donc, la même chose que pour le tabac ou l'alcool, c'est vers ça aussi qu'il faut aller dans la régulation.
On est en train de parler de notre alimentation avec 3 médecins qui signent une tribune dans Le Monde en disant que nous mangeons trop gras, trop sucré, trop salé. Il y a Jean-David Zetoun qui est hépato-gastro-entérologue. Il y a Serge Herbert qui est professeur émérite de nutrition, le père du Nutri-Score. Il y a Mathilde Touvier qui s'en occupe aussi et qui est directrice de recherche à l'INSERM. Et il y a vous, Jean-Louis. Bonsoir, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Jean-Louis, je suis producteur en bio, en maraîchage essentiellement dans le Nord Toulousain, en Occitanie. Et merci France Inter de me prendre et d'accepter de m'entendre. C'est un problème de santé publique. La base de toute cette alimentation, européenne essentiellement, c'est un problème aussi de revenus agricoles. Et donc, moi, je peux témoigner que nos jeunes installés ont vraiment dans la veine, dans le cœur de soigner une population d'être vivrier avec des produits vraiment très très sains, très très sains. Et il s'agit d'un problème aussi de revenus agricoles. Tout à l'heure, il a été évoqué la baisse de la TVA sur les produits bio. Bien sûr, c'est un vecteur intéressant. Mais également, il faudrait aussi, en termes, là c'est plus de l'économie, baisser tout ce qui est charge induite aux productions bio. Et également baisser la fiscalité. Ce serait une grande incitation. Et donc, de plus en plus, nos écoles ont besoin de produits bio, et on l'entend par les PAT notamment. Et donc, c'était indispensable. Il faut absolument que les États concernés, l'Europe, aillent dans ce sens-là. C'est c'est salutaire pour la santé de nos jeunes et pour en devenir.
On va poser la question à nos invités, bien sûr, et d'ailleurs c'est par là que commence la tribune, effectivement, sur aussi la juste rémunération et le juste prix. J'ai quand même une question pour vous, Jean-Louis. Est-ce que vous pensez que si le bio marque le pas, parce que c'est le cas, comme si on était arrivé effectivement à une forme de plafond, est-ce que c'est simplement le prix, ou est-ce que, encore une fois, il y a un palier culturel que beaucoup de gens n'ont pas encore franchi en France, vous qui êtes dedans?
Le palier culturel, il vient essentiellement de la confusion. 80% des produits bio alimentaires sont dans les supermarchés. Mmh. Il y a une grande confusion entre l'importation du bio. Lorsqu'on retrouve des bio, je pense aux lentilles, les corail venant de Chili ou algérien, tout le monde doit vivre de son métier. Mais il y a une grande confusion. Tous les produits bio arrivant intramuros en France et en Europe, donc ne sont pas soumis à la même réglementation. Mmh. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les produits venant de Brésil, de l'Argentine, je pense à la mangue, je pense à la banane, avec la traçabilité bio obligatoire, parce que c'est certifié. Ils ne sont pas liés, si vous voulez, à la même réglementation. Et ça, c'est une grande confusion culturelle et d'approche intellectuelle du produit, carrément. Mmh.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Jean-Louis. J'aimerais bien votre avis là-dessus, Serge Herberg, parce que vous dites effectivement que c'est même le début de la tribune, que en gros, tout notre système alimentaire repose sur une précarité à grande échelle des éleveurs comme des agriculteurs. Il faut effectivement commencer par rémunérer à leur juste prix, et pour que du coup, les produits soient aussi à leur juste prix et donc accessibles à tous. Et en même temps, on voit qu'il y a alors ça, c'était l'explication de Jean-Louis, il y a cette marche culturelle dont on a l'impression qu'on ne l'a pas franchie, parce que le prix est un facteur. Je ne sais pas si le prix est tout le facteur, en fait.
Peut-être pas tout le facteur, mais c'est un facteur tout de même extrêmement important. Et c'est évident qu'il faut accompagner la production et les producteurs de manière à pouvoir avoir une production saine et durable qui corresponde vraiment à l'intérêt à la fois nutritionnel au niveau individuel et de la planète, avec un respect, en effet, d'une rémunération des agriculteurs. Et c'est un peu l'idée qu'il y a derrière ce que l'on propose, c'est-à-dire de manger moins, mais mieux. C'est-à-dire, si on doit manger moins de viande aujourd'hui, même si on doit manger moins de certains types de produits.
C'est intéressant d'ailleurs, parce que la viande a changé de Nutri-Score récemment, la viande rouge dans les nouvelles classifications, et précisément pour ces raisons-là. C'est pas que c'est moins bon, puisqu'il y a toujours autant de protéines, mais vous faites entrer en ligne de compte le fait que en manger trop n'est pas censé être une bonne chose pour la santé.
Oui, tout à fait. Se sont accumulés au cours des dernières années de nombreux travaux qui montrent que la consommation de viande de boucherie, c'est-à-dire hors volaille, en quantité importante, est un facteur de risque de certains cancers, notamment du cancer colorectal. Donc il était nécessaire de un peu plus pénaliser, compte tenu des progrès de la science, les viandes de boucherie, surtout d'être capable de pouvoir les discriminer des autres types de produits comme la volaille ou le poisson.
Ce qui est intéressant, Mathilde Touvier, c'est jusqu'à quel point il faut continuer à expliquer des choses et même à lutter. On a Stéphane qui dit qu'il faut lutter contre des tas d'idées reçues. Il dit le sucre roux, par exemple, est aussi nocif, et il y met des guillemets, évidemment, que le sucre blanc, mais le vendre roux lui confère des vertus par rapport au blanc. Comment on fait pour lutter contre des idées reçues de ce type qui sont entretenues, au final, par les marques, Mathilde Touvier?
Oui, alors c'est sûr que le domaine nutrition, santé, que ce soit sur le web, sur les réseaux, etc., est loin d'être le dernier en matière de fake news.
Donc, c'est le moins qu'on puisse dire, oui.
Voilà, on va trouver beaucoup de choses. Et bon, une partie de ces fake news, évidemment, faut l'avouer, vient de certains industriels de l'agroalimentaire qui vont se servir d'arguments, parfois de naturalité. On avait quand même une pub pour une marque de sucre récemment qui nous rappelait que le sucre est une plante, par exemple. Donc il y avait des grandes campagnes d'affichage dans la rue avec ça. Ouais. Donc voilà, ils ne reculent devant rien parfois pour mettre en avant ces arguments-là. Et donc, derrière tout ça, justement, la question de où est-ce que, quand on s'interroge, quand on se demande comment faire pour mieux manger, d'aller chercher l'information aux bons endroits. Et donc, le site mangerbouger.fr, par exemple, du Programme National Nutrition Santé, est une source d'information. Il y a les recommandations qui sont rappelées. Il y a plein d'idées de menus. Il y a quelque chose qui s'appelle la fabrique à menu. Vous pouvez trouver plein d'idées pour faire une alimentation plaisir et en même temps favorable à la santé. Il y a des applications comme Open Food Facts aussi, applications gratuites qui vous permettent d'avoir, en scannant le code barre des produits, vous aurez le Nutri-Score, vous aurez la présence d'additifs, l'impact sur l'environnement, le côté ultra transformé, etc. Donc, toutes ces infos-là, niveau-là. Et donc ça fait partie des sources d'infos plus fiables et qui contrebalancent finalement les messages qu'on peut recevoir de la part de certaines publicités, on va dire.
Jean-David Zetounia, Vincent, qui nous dit quand on n'a pas de sous, une soupe maison, c'est minimum 20 minutes de gaz, alors qu'une soupe industrielle, c'est 5 minutes de réchauffage. Et l'énergie est aussi un facteur. On a Fatima qui dit pour les familles qui vivent par exemple dans un studio avec une plaque et deux feux ou un micro-ondes, il est très difficile de cuisiner des produits, donc des familles de produits transformés. Et au fond, le problème, c'est pas l'alimentation, c'est la précarité.
C'est tout le problème, c'est exactement ce qu'on dit. Rien ne va dans le marché alimentaire. Et si il y a entre les 5% de Français les moins riches et les 5% de Français les plus riches, il y a 13 ans d'écart d'espérance de vie. Donc c'est énormissime.
Lié à la nourriture, dont on sait que c'est lié à la nourriture.
Dans les 3-4 causes principales de ces 13 ans d'écart, bon, il y a le tabac et l'alcool, mais il y a aussi évidemment l'alimentation. Donc oui, bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut réformer le marché alimentaire, de telle sorte qu'on puisse inverser l'anomalie de marché qui fait que les aliments mauvais pour la santé sont moins chers que les aliments qui sont bons pour la santé.
10% c'est en vous lisant, je crois que j'ai lu ce chiffre, 10% de proportion d'aliments ultra transformés provoque 13% des risques globaux de cancer, Serge Herberg. Et c'est terrible de se dire que parce qu'on mange plus mal, mais parce que on est plus précaire, alors on a une espérance de vie qui chute terriblement.
Absolument, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a écrit cette tribune, c'est pour mettre le doigt sur le fait que les grands enjeux de santé publique auxquels nous sommes confrontés, en effet, concernent toute la population, mais particulièrement les populations précaires, et qu'il y a des mesures qui sont connues, reconnues, basées sur la science, mais qui pour ça, il faut une volonté politique, parce qu'il faut des régulations, des réglementations.
Allez-y, j'en ai
Par ailleurs, c'est un jeu économique qui est perdant pour la société dans son ensemble. Donc c'est un argument qu'on a manié, mes petits camarades m'ont empêché de le mettre dans l'article, parce qu'ils avaient peur que ce soit mal compris.
C'est vrai.
Mais la totalité des profits de l'industrie alimentaire en France, c'est inférieur à la totalité des dépenses juste pour l'obésité, des dépenses de soins pour l'obésité. Ce qui veut dire que l'industrie alimentaire ou les quelques industriels de l'alimentation qui provoquent des maladies détruisent plus de valeur économique qu'elles ne créent de valeur économique.
Il y a une question de Sylvaine Mathilde Touvier sur les sodas, et je trouve ça intéressant parce que dans le Nutri-Score nouvelle formule, si je puis dire, il n'y a que l'eau qui est en A, sinon plus rien d'autre. Énormément d'enfants, nous dit Sylvaine, boivent des sodas, et alors que l'eau est la meilleure boisson, mais c'est vrai que c'est aussi sympa de temps en temps de boire un soda. Qu'est-ce qu'on dit de tous ces faux sucres, etc., quand on est dans votre pot de directrice de recherche à l'INSERM?
Oui, justement, dans la nouvelle version...
Va des rétro.
Oui, alors les faux sucres, en l'occurrence, là dont on parle, sont les édulcorants, donc aspartame, acésulfame K ou sucralose, par exemple, qu'on retrouve beaucoup dans des sodas sur le marché actuellement. Et donc, là, il y a eu une expertise, notamment du Centre international de recherche contre le cancer de l'OMS, qui, en 2023, a classé l'aspartame comme cancérigène possible pour l'homme. Nous, on a montré dans l'étude Nutrinet Santé, sur plus de 100 000 participants, des associations entre l'exposition à ces édulcorants et un risque accru de cancer, de maladies cardiovasculaires, de diabète. Donc, il y a de plus en plus d'études qui s'accumulent là-dessus et qui amènent les autorités de santé publique, l'ANSES et autres, à dire, limiter le goût sucré de manière globale dans l'alimentation, donc ça veut dire limiter les boissons sucrées, mais aussi ne pas considérer les édulcorants comme une alternative sûre. Et c'est pour ça que le Nutri-Score a évolué et pénalise maintenant aussi les boissons édulcorées.
Parce que moi, j'ai appris en faisant cette émission qu'on pouvait être accro au sucre, Serge Herberg, mais vraiment, donc ne plus pouvoir se passer de sucre. Est-ce que ça marche pareil avec les édulcorants? C'est-à-dire, ça ne change rien au côté accro si ce sont des édulcorants que l'on prend.
L'inconvénient des édulcorants, indépendamment de leurs effets nocifs possibles, délétères pour la santé, c'est également de maintenir une appétence pour le goût sucré. Donc, supprimant, en pénalisant plus les produits qui contiennent des édulcorants, notamment les boissons édulcorées, eh bien, on montre aux consommateurs qu'il faut plutôt s'orienter vers des produits qui ont moins le goût peut-être sucré, mais qui sont plus favorables à la santé et qui restent aussi du plaisir.
Voici Laurence qui nous attend au standard. Bonsoir Laurence.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors oui, je voulais apporter mon témoignage. Je suis enseignante en SVT au lycée et je suis assez frappée par l'absence d'éducation à l'alimentation. Voilà. Mmh. On parle un petit peu de diabète en terminale spécialité, un peu de cancer lié parfois à l'alimentation en première, mais rien d'autre. Mmh. Alors qu'on a des élèves qui ont un enseignement scientifique et qui ne sont pas forcément très intéressés par ce qu'on fait et qui seraient en demande d'éducation à la santé et à l'alimentation.
Voilà. C'est marrant, Laurence, parce que vous faites écho à Hélène qui nous envoyait un message sur le WhatsApp en nous disant pourquoi ne pas imposer des cours de diététique au moins en classe de 3e. Est-ce que vous, par exemple, la prof de SVT, vous dites « chiche, moi je veux bien faire une heure de cours de diététique en fait, à mes élèves
» Ah ben chiche,
Ah oui, même fiche, même à la limite donner des recettes de cuisine. Hein.
Ouais, ouais, ouais.
Ah oui, parce que ça me paraît, surtout en lycée, on a des élèves qui vont partir dans le supérieur, et alors l'alimentation, là, c'est catastrophique, parce que d'une part, leurs moyens sont relativement faibles, et puis ils ne prennent pas le temps de s'alimenter convenablement.
Mmh. Cours de diététique, au moins apprendre ce que ça veut dire, Mathilde Touvier, les risques qu'il peut y avoir, qui sont effectivement des risques d'obésité, etc. Est-ce que tout ça... après tout, il y a eu la semaine du goût pendant très longtemps, dont on ne parle plus trop, qui existe encore pourtant. Est-ce que tout ça... Pourquoi pas le faire rentrer à l'école et le faire rentrer plus fort, même que ça ne l'est.
D'accord, hein, mais en plus je suis une famille d'enseignantes, donc je crois énormément dans le pouvoir de ce que peut apporter l'école, et notamment l'école publique dans toute la diffusion de ces messages-là, école et puis secondaire également. J'ai donné la semaine dernière des cours pour des enseignants du collège, lycée, prépa bio, pour diffuser aussi ces messages-là, nutrition santé, et j'essaye de militer pour que dans le prochain PNNS, il y ait par exemple une formation des enseignantes plus poussée, obligatoire, ne serait-ce qu'avec une ou deux heures de webinaire par an pour se remettre à la page, expliquer comment marche le Nutri-Score, etc., pour qu'ils puissent transmettre. Ce sont des vecteurs formidables de transmission d'informations aux générations futures, les enseignants. Donc, c'est absolument clé. Et voilà, la semaine du goût, c'était notamment une semaine qui est...
C'était ou c'est d'ailleurs, parce que du coup, j'ai un doute.
Eh bien, alors, je ne sais pas ce qu'il en est en ce moment,
oui,
mais il y a eu pas mal de controverses parce qu'elle était aussi sponsorisée par des industriels qui, du coup, amenaient des produits de marque dans les classes. Quoi. Okay. Donc, voilà, on ne parle pas de ça ici. Là, on voudrait vraiment de l'enseignement à la nutrition de santé publique et à la nutrition pratique pour les jeunes. Ça peut commencer dès la maternelle, avec un message adapté, évidemment, à tous les âges.
Eh bien, voilà les plus petits. Merci beaucoup. Merci à tous les trois, vraiment, pour votre participation. Merci à tous pour vos très nombreux appels. La